journal, Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, quand le charme saoudien n'opère plus, fini le temps des louanges au prince Salman, accusé d'avoir fait assassiner un journaliste réfugié aux États-Unis. Des proches sont directement soupçonnés d'avoir fait le sale boulot. Emmanuel Macron, visionnaire ou crépusculaire? Hier soir, le président a redonné le cap. Face à la tragédie écologique, il promet des mesures inédites dans les mois qui viennent. Déclaration post-remaniement, l'une des promues du gouvernement dans ce studio dans 20 minutes.
Oui, Jacqueline Gourault, nouvelle ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Vous pouvez dialoguer avec elle, l'interpeller. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter.
À la une également, les sinistrés de l'Aude et les leçons à tirer des crues. Le pétard en terrasse au Canada, le cannabis récréatif, c'est légal là-bas à partir d'aujourd'hui. Le sport, pas assez prescrit par les médecins en France. Et Griezmann, superstar, après la victoire des Bleus face à l'Allemagne hier soir.
France Inter.
L'affaire Khashoggi sera-t-elle le tombeau des ambitions du prince héritier saoudien? Son Davos du désert dans 10 jours est en train de faire un four, sans les patrons des grandes banques mondiales et des fonds d'investissement, sans Christine Lagarde. La patronne du FMI vient d'annuler sa participation et tous les regards se tournent aujourd'hui vers MBS, le prince Salman, celui que l'on soupçonne d'avoir assassiné le journaliste du Washington Post début octobre au consulat saoudien d'Istanbul. Ceux-là, Grégory Phillips, sont des proches du prince.
Les policiers turcs affirment que le 2 octobre, le jour de la disparition de Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite, deux jets privés en provenance de Riyad se sont posés à Istanbul le matin et sont repartis le soir même avec 15 hommes à leur bord. Selon le New York Times, au moins 4 de ces individus ont un lien direct avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. L'un de ces hommes s'appelle Maher Abdelaziz Moutreb, c'est un diplomate et le quotidien new-yorkais publie plusieurs photos où on le voit en compagnie du prince MBS lors de voyages récents à Madrid, Paris ou aux États-Unis. Dans le groupe, affirme aussi le quotidien, il y a un médecin légiste, ce qui peut laisser penser que l'assassinat du journaliste était programmé. Si, comme l'écrit le New York Times, ces 15 hommes se sont bien rendus au consulat le 2 octobre et qu'ils ont un lien direct avec le prince, alors cela viendrait contredire la version des autorités saoudiennes qui affirment n'être nullement impliquées dans la disparition du journaliste. Et cela va devenir beaucoup plus difficile pour Trump et son administration de soutenir le jeune prince héritier de 33 ans. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et d'ailleurs, si Donald Trump réclame la présomption d'innocence pour les Saoudiens, deux influents sénateurs républicains appellent maintenant au départ de Mohamed Ben Salman. Cet homme est destructeur. Il a fait assassiner le journaliste Jamal Khashoggi. Accusation sans périphrase du sénateur Lindsey Graham dans l'émission préférée du président sur Fox News.
Il est 8h03 quand Emmanuel Macron parle aux Français. Le président face caméra hier soir pour une allocution post-remaniement.
Un ton grave dans un bureau sombre, ni tournant ni changement de cap, assure le président qui s'est livré à une autocritique sur la forme. J'ai pu déranger ou choquer par mon parler vrai et qui a surtout dramatisé les enjeux du moment pour la France sur le thème de l'écologie notamment, des propos que ne renierait pas Nicolas Hulot.
L'esprit profond du peuple français a toujours été de ne pas se soumettre. Ne pas se soumettre à la tragédie écologique et faire des choix clairs et profonds pour changer notre manière de produire, de nous déplacer, de nous alimenter. Là aussi, il ne s'agit ni de dénoncer une tragédie, ni de rester dans l'immobilisme, mais de prendre des décisions profondes, inédites. Le gouvernement a commencé ces derniers mois. Et dans les semaines à venir, il aura des décisions structurantes et historiques à prendre.
La tragédie écologique, les temps troubles d'une Europe qui bascule vers les extrêmes face à l'apathie des somnambules du monde qui va. Le tableau est sombre, comme l'était l'éclairage sur le président dans son bureau de l'Élysée hier soir. Ambiance crépusculaire, selon le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde.
On est passé de Jupiter au crépuscule des dieux. L'an dernier, c'était dans la lumière, aujourd'hui, c'est dans la pénombre. Je n'ai pas compris qui a pu lui conseiller de parler ainsi dans le noir. Deuxième chose, sur le fond, le président de la République, dans son remaniement, a choisi de ne rien changer. Il a changé les acteurs, il n'a pas changé de scénario. Il n'a pas changé de politique. Et il l'assume, ce qui est son droit. Mais à partir du moment où il ne change rien, s'exprimer devant les Français pour leur dire « Ouh là là, le monde est méchant, le monde est difficile et ça va être plus compliqué pour nous, il faut se mobiliser. » Vous savez, on a pendant des semaines, là, 15 jours d'attente d'un remaniement, dit « on va avoir un second souffle ». J'ai même pas vu le premier souffle.
Jean-Christophe Lagarde avec Maxence Lambrec. Et si le président a pris la plume sans prompteur pour cet exercice de communication à l'ancienne, c'est pour acter la fin de la séquence remaniement ouverte il y a 15 jours avec le départ de Gérard Collomb, remplacé hier par Christophe Castaner, un de ses proches. L'autre ministre qui prend du galon, c'est Jacqueline Gourault, à la tête d'un grand ministère des collectivités locales. Et ça, c'est un des signes de l'influence de François Bayrou sur ce remaniement. Karine Bécard, l'éphémère ministre de la Justice d'Emmanuel Macron, a eu voix au chapitre.
François Bayrou est incontestablement le grand gagnant du remaniement d'hier. D'abord parce qu'il a réussi à conforter et même à renforcer la place de sa protégée, Jacqueline Gourault. Elle est devenue ministre de plein exercice et elle dispose même pour travailler de deux ministres à ses côtés. Ensuite parce que François Bayrou, toujours, a obtenu qu'un autre de ses proches entre au gouvernement, Marc Fesneau. Jusqu'ici patron des députés Modem à l'Assemblée, il est désormais ministre chargé des relations avec le Parlement. À ce poste-là, Christophe Castaner, qui l'a précédé, n'était que secrétaire d'État. Et puis surtout, c'est François Bayrou qui s'est énergiquement opposé à l'arrivée de Frédéric Pechenard au ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe étaient tous les deux d'accord pour nommer ce sarkozyste, mais le président du Modem a refusé d'en entendre parler. Et comme le confirme l'un des cadres de son parti, sur cet arbitrage, c'est lui aussi qui l'a emporté.
Et la nouvelle équipe gouvernementale au complet sera ce matin à la table du Conseil des ministres à 10h. À l'Assemblée, les députés soulagent les agriculteurs. Ils ont supprimé un projet qui leur faisait très peur hier en commission, la fin de l'exonération des cotisations pour l'emploi des travailleurs saisonniers. Les maraîchers, les arboriculteurs et les viticulteurs étaient montés au créneau. Le MEDEF, en revanche, va faire hurler les médecins. Dans le Figaro, Geoffroy Route-Bézieux présente son plan pour réduire le coût des arrêts maladie. Ciblé sur les médecins qui en prescriraient trop, il faudrait les contrôler à partir du quatrième arrêt délivré à un même patient.
Il est 8h07, Florence. Des tonnes de boue, des murs comme des éponges et des meubles à mettre aux ordures.
Voilà à quoi ressemblent les lendemains d'inondation dans l'Aude, 48 heures après les crues qui ont tué 13 personnes. Plus d'une centaine de communes recensent les dégâts. Les écoles restent fermées dans l'est du département. Et s'il est encore trop tôt pour tirer les leçons de la catastrophe, souvenons-nous des inondations de Nîmes il y a 30 ans. Depuis, la ville a massivement investi pour ne pas revivre le même cauchemar, Sandy Dauphin.
Le 3 octobre 1988, le Cadéro d'Alès, l'un des cours d'eau qui traverse Nîmes, est monté subitement à 2,40 m alors qu'il était à sec. Depuis, un vaste chantier a été lancé pour réaménager les 6 cours d'eau de la ville. Jean-Luc Nuel, chef de projet du programme d'action de prévention d'inondations.
On construit des tunnels souterrains. On a l'impression de construire un métro, mais c'est simplement pour y faire transiter de l'eau sous la ville et pas dans la ville. On a déjà mobilisé 160 millions d'euros en 30 ans, sachant qu'on en est, à peu près à la moitié du programme de réaménagement.
Un programme de grands travaux complété par un volet prévention. L'agglomération de Nîmes a mis en place son propre système de surveillance des cours d'eau et d'information à la population.
La ville s'est dotée d'un dispositif spécifique de prévision, de supervision de ces inondations. Et donc dernièrement, la ville a pu mettre en place un système d'appel automatique des administrés qui peuvent s'abonner à ce système. Dès que le plan communal de sauvetage est déclenché, ils reçoivent un appel automatique chez eux de l'ordre de la demi-heure avant l'événement.
À Nîmes, les gestes à adopter en cas d'inondation torrentielle sont enseignés dès l'école et pour que les habitants n'oublient pas le risque, une centaine de bâtiments de la ville ont été marqués avec des repères de la crue dévastatrice de 1988 pour rappeler jusqu'où l'eau est montée.
Et puis ce matin, les craintes sont levées en Haute-Corse où la pluie et les orages ont fait déborder des rivières du secteur de la Castanitsa. 40 personnes ont été mises à l'abri. Les transports scolaires sont suspendus sur la côte orientale. L'ado de 13 ans mort dimanche après une rixe au Lila a succombé à un œdème pulmonaire. Et c'est une autre histoire que raconte le parquet de Bobigny. Le garçon aux antécédents cardiaques aurait fait un malaise sur un scooter. Il est tombé. C'est une fois à terre qu'il aurait été frappé. Mais il n'est pas mort des suites de blessures, selon l'autopsie. Un homme abattu au volant d'une Porsche Cayenne hier soir à Neuilly-sur-Seine. Le tireur et son complice, qui circulaient en scooter, sont en fuite. Et puis c'est la fin d'un procès hors norme aux assises des Bouches-du-Rhône dans l'affaire du double assassinat d'Hélène Pastor et de son chauffeur. Les jurés rendront leur verdict ce soir après un mois d'audience et une plaidoirie à contre-courant de Maître Dupond-Moretti hier. Il a plaidé la culpabilité du gendre, son client qui nie les faits depuis le début du procès.
La fumette au grand jour au Canada, c'est à partir d'aujourd'hui.
C'est le premier grand pays à légaliser l'usage récréatif du cannabis, avec 5 millions de fumeurs qui ont consommé l'an dernier pour près de 4,5 milliards de dollars de marijuana. C'est un nouveau marché qui s'ouvre en plus du cannabis thérapeutique. Reportage Loïc Loury à Ottawa.
Chaque jour, ils sont 450 à défiler dans ce dispensaire d'Ottawa. À 6 euros le gramme de cannabis, Fresco en a pour son argent, il vient ici quotidiennement.
Moi, je suis venu dans le dispensary pour pouvoir acheter un peu de marijuana. Pour enjoy, je pense que c'est super. On pourra fumer comme on veut. C'est mieux que ça qu'acheter dans la rue. Là.
Sortir le cannabis du caniveau, c'est l'objectif affiché du Canada, mais cette légalisation est aussi en train de libérer l'appétit des investisseurs. Afsal Hassan dirige un fonds spécialisé.
Effectivement, l'argent coule à flot. Cela reflète deux choses. D'abord, c'est une immense opportunité, mais c'est aussi malheureusement parce que tout cela est mal compris et beaucoup investissent dans tout ce qui leur tombe sous la main.
Résultat, certains producteurs dépassent déjà les 10 milliards de dollars de capitalisation. Des groupes comme Coca-Cola prennent pied dans le secteur. Attention à la surcommercialisation, c'est ce que dit Eugène Oscapella, criminologue et avocat.
Si on commercialise trop la production et la vente de cannabis, il y aura des grandes forces commerciales qui vont chercher de vendre autant que possible. Et c'est pas la meilleure façon de protéger la santé publique.
Reste que cela prendra du temps. Le marché noir va continuer à prospérer. Des pénuries de cannabis légales sont déjà annoncées pour les prochains jours. Ottawa, Loïc Loury, France Inter.
Et la carte des pays qui autorisent le pétard sur franceinter.fr. En France, c'est le sport qui devrait être prescrit sur ordonnance davantage. La Haute Autorité de Santé Publique publie aujourd'hui un guide pour aider les médecins à faire de l'activité physique à leurs patients. Ils en ont le droit depuis plus d'un an pour les malades du cancer ou du diabète, par exemple, mais ça se fait trop peu pour l'instant, Véronique Julia.
Limiter la prise de médicaments, éviter la récidive, favoriser une reconstruction, l'activité physique, c'est avéré, sert à tout cela et les médecins le savent. De là à rédiger une ordonnance formelle qui prescrira telle activité pour tel patient, sur quelle période et avec quelle régularité. Le député En Marche, Belkir Belhaddad, a rédigé un rapport sur le sujet en début d'année. Il a rencontré beaucoup de médecins, finalement très mal informés.
Il me disait qu'il ne savait pas vers qui orienter et quoi prescrire exactement.
Mieux informer les médecins, mieux organiser la filière aussi semble nécessaire en définissant mieux qui, du kiné à l'ergothérapeute en passant par le coach sportif, doit s'occuper de quoi. Mais surtout, c'est la question du financement qui pose problème. Aujourd'hui, ce sport sur ordonnance n'est pas remboursé par l'assurance maladie, ce qui freine considérablement son essor. Ici ou là, on trouve certains financements, mais rien d'homogène.
Ça peut être par exemple la Ligue contre le cancer, ça peut être le régime local en Alsace-Moselle, du mutuel, ça peut être les collectivités locales et territorial, mais faut-il encore qu'il y ait une volonté politique, c'est pas toujours le cas.
Le député, en tout cas, en est convaincu en remboursant ce sport sur ordonnance. L'assurance maladie serait gagnante. La promotion de l'activité physique permettrait, d'après lui, d'économiser 7 à 10 milliards sur les 90 milliards que coûtent les affections longue durée chaque année en France.
Il est 8h13 quand les Allemands, Florence, prennent un coup de grisou.
Et même deux coups de grisou hier soir. Deux buts signés Griezmann au Stade de France contre un seulement pour la Mannschaft. Griezmann superstar, Sébastien. Hasard.
Ce coup-ci, c'était au tour d'Antoine. L'attaquant de l'Atlético Madrid, avec ce doublé, a permis à la France de conserver son invincibilité. Dans cette rencontre, il a été utilisé tour à tour dans l'axe, puis sur un côté. Aucune importance, assure Antoine Griezmann.
Pas de souci, au service de l'équipe et de la République. Donc voilà, on travaille, on essaie de faire du mieux. Et après, voilà, si c'est à droite, dans l'axe, au milieu, on essaie de faire du mieux.
Souriant et honnête, il n'a pas cherché à survendre la première mi-temps. Les Bleus étaient hors sujet, ça tous les spectateurs du Stade de France ont pu s'en rendre compte. Mais pour lui, après la pause, l'équipe championne du monde était bel et bien de retour. grâce à un changement tactique et un changement de système opéré par Didier Deschamps, mais pas seulement pour le capitaine Hugo Lloris.
On peut parler de tactique, mais lorsqu'on ne respecte pas les fondamentaux, à ce niveau-là, c'est compliqué. Il faut mettre beaucoup plus d'intensité dans les courses, dans les duels.
Des Bleus beaucoup plus déterminés après la pause, mais toujours sûrs de leur force, selon le défenseur Raphaël Varane.
On a eu des moments difficiles dans la Coupe du Monde. On a su faire le dos rond quand c'est un peu plus difficile. Il ne faut pas perdre ces valeurs-là, il ne faut pas paniquer. On a confiance en nous, on sait de quoi on est capable. On sait qu'on sait souffrir aussi dans des moments plus difficiles.
La France victorieuse une nouvelle fois, tant mieux, mais qui joue quand même avec le feu.
Voilà, les Bleus, malgré quelques faiblesses, sont bien partis pour la phase finale de la Coupe des Nations. Pendant que les Allemands s'enfoncent, leur sélectionneur Joachim Löw pourrait en subir les conséquences. Enfin, pour les amateurs, voici le dernier Lars von Trier de House of Jack Bult au cinéma ce mercredi. L'histoire d'un tueur en série qui tente de faire de ses meurtres une œuvre d'art avec Matt Dillon, comme souvent Mathieu Culeron. Le film a fait polémique quand il a été projeté à Cannes.
Jack est un tueur en série rongé par les tocs et la frustration de ne pas être architecte. Jack est en effet ingénieur, mais lorsqu'il essaie de construire une maison, tout s'écroule. Très vite, on comprend que Jack, c'est Lars von Trier. Le réalisateur danois est cet artisan, cet ingénieur du cinéma qui ne parvient pas, selon lui, à devenir un grand cinéaste. Matt Dillon interprète Jack dans le film.
Il y a beaucoup de choses de Jack en Lars. La nature compulsive, la frustration créative, ça c'est Lars. Après, il n'est pas malveillant. Il fait des choses pour provoquer, il fait des choses pour briser les règles, mais il le fait car il pense que c'est son devoir. Il explore la partie la plus sombre de l'humanité.
Si on arrive à passer les scènes d'atrocité, ce qui s'avérera extrêmement compliqué, y compris pour les plus courageux, on découvre alors un film puissant et presque testamentaire sur les angoisses de la création. Un film dont on se dit qu'il pourrait être le dernier film de Lars von Trier. Matt Dillon.
C'est ce qu'il dit, mais je ne le crois pas du tout, car il est né pour faire ce métier.
The House That Jack Built est le film le plus personnel, le plus impudique et introspectif de Lars von Trier. Un film important, bien moins atroce qu'il n'y paraît.
Are you allowed to speak along the way?
Pardon, The House That Jack Built, un film lumineux donc sur l'humanité à l'image de Nicolas Demorand en face de moi.